Bienvenue pour cette. Donc, c'est la deuxième séance du cycle sur le travail que l'on a organisé cette année au sein de l'Université populaire de Lyon. Le thème de l'année, vous savez, ce sont les liaisons dangereuses. Donc, nous, on s'est dit néolibéralisme et travail, c'est plutôt des déliaisons dangereuses. Et on a décidé d'explorer ça avec une série de conférences. Daniel Linhart a ouvert le cycle en octobre dernier. Après, on s'est associé avec Ciné-Travail pour une journée qui a été animée par Yves Clos. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Paul Bouffartigue, qui nous a fait l'amitié de répondre positivement à l'invitation. Paul Bouffartigue est directeur de recherche au CNRS, sociologue du travail. Et il a mené de multiples enquêtes et études sur différents thèmes, à commencer par les classes sociales, les questions des classes sociales que tu as explorées depuis le début finalement de ta carrière, d'abord sur la classe ouvrière, hein, après sur les questions des cadres. Hein. Et d'ailleurs, tu as publié un ouvrage, un des derniers ouvrages, c'est sur les classes moyennes.
Un ouvrage collectif.
Ouvrage collectif dirigé avec Sophie Pochic
et Charles Gabriel.
Cher Mancolin. Et puis, tu travailles aussi sur les questions des mobilisations collectives, sur la transformation du travail. Et puis, un de tes thèmes de recherche depuis longtemps, c'est la question du temps de travail, des temporalités de travail. Et d'ailleurs, je crois que tu es aussi membre du comité de rédaction de la revue Temporalité, en fait. Hein.
C'est vrai.
Mais peut-être que tu en diras plus. Hein. Ouais. Et donc, ce soir, on a souhaité inviter Paul Bouffartigue pour qu'il nous parle dans une conférence à partir de son ouvrage « Temps de travail et temps de vie », hein, les nouveaux visages de la disponibilité temporelle, qui est sorti, je pense, l'année dernière, hein, aux presses universitaires de France. Et puis, donc tu vas parler, et puis il est possible, peut-être que tu reviennes après dans les questions sur l'ouvrage. Donc, le principe, c'est le même que d'habitude. C'est d'abord un premier temps d'intervention, et puis on a 2 heures. Donc, normalement, c'est un temps, 1 heure d'intervention, puis 1 heure de questions. Peut-être que Paul va faire un petit peu autrement pour donner plus de temps à la discussion. Quitte à revenir après un petit peu longuement sur un certain nombre de questions. Donc, et là, je vais juste terminer en disant que la prochaine séance, c'est le 14 janvier avec Philippe Davezy, qui est médecin du travail et qui est à Lyon 1. Et qui, et là aussi, ça sera. Donc, on a essayé de penser ce cycle un peu de façon complémentaire et en espérant que vous puissiez suivre l'ensemble des séances. Donc, ben, merci. Puis,
merci là, Sophie. Bon, je suis très content d'être là. Donc, je disais que j'étais très content d'être là, voilà, ça passe. Parce que je participais ces dernières années à l'Université populaire du Pays d'Aix, dans laquelle j'abordais un certain nombre de thèmes liés aux transformations du travail et du monde du travail. Et puis là, j'ai passé la main à une collègue, et comme je dis souvent, l'interaction avec un public citoyen, voire engagé, pour un chercheur comme moi, c'est très vivifiant, c'est très régénérant toujours. Et je considère que ça fait partie de mon métier, tel que je le conçois, d'avoir ce genre d'échange à partir de mes propres réflexions que je soumets finalement au débat public. Je considère que nos travaux de chercheurs, surtout en sociologie, surtout quand on s'intéresse au monde du travail, ne sont pas destinés à rester dans un petit cercle savant. Et il faut absolument, dans le contexte actuel, qu'on fasse profiter le plus grand nombre de nos petites découvertes, de nos petites réflexions. Mais en même temps, je suis toujours très modeste parce que je considère qu'il y a plein de savoirs dans cette société, il y a plein de savoirs portés par l'action, par les actions multiformes qui existent dans cette société, et que notre contribution, c'est une contribution finalement parmi d'autres. Mais quand même... Donc là, en fait, je vais vous parler à partir de ce bouquin, effectivement, qui s'appelle « Temps de travail et temps de vie, les nouveaux visages de la disponibilité temporelle ». Et pour moi, le sous-titre est aussi important que le titre. Le titre est un peu plat, quoi. « Temps de travail et temps de vie », bon, ça dit pas grand-chose. « Les nouveaux visages de la disponibilité temporelle », c'est un peu de ça dont je vais parler. Hein? C'est-à-dire que je vais essayer de vous expliquer à partir des travaux que j'ai pu conduire avec Jacques Bouteillé, un ami et collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé, en gros dans les années, fin des années 90, début des années 2000, à l'époque où ce qui était devant sur le devant de la scène, c'était la question des 35 heures et de la réduction du temps de travail. Ça paraît déjà très loin, hein, c'était il y a une bonne dizaine d'années. mais je vais essayer de vous montrer l'actualité des questions qui étaient débattues à l'époque. Donc pendant une petite dizaine d'années, la plupart de mes enquêtes ont porté sur cette question des temps de travail et des temps de vie dans des milieux socio-professionnels extrêmement variés, allant du monde ouvrier peu qualifié au monde des cadres. Et je pense que ça, c'est déjà une originalité, c'est-à-dire essayer de voir comment une question commune que chacun doit affronter dès qu'il est tout petit, j'allais dire, c'est-à-dire finalement comment réguler, comment arbitrer entre les différentes activités qui nous sont proposées quelque part. Hein. Cette question qu'on gère toute notre vie, elle se pose quand même de manière extrêmement contrastée selon qu'on est ingénieur dans une société de services informatiques ou caissière d'hypermarché. Hein. Voilà, en tant que sociologue, j'essaie de vous montrer que certes, il y a des enjeux communs, mais il y a aussi quand même beaucoup de diversité, beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de différences, voire de tensions, d'opposition au sein du monde du travail, sur toute une série de questions, dont celle-là, la manière dont se présente la question du temps et du libre usage du temps. Je pense que c'est une des questions devant lesquelles se trouve aujourd'hui le monde du travail, ou les forces du monde du travail qui sont engagées pour sa transformation, c'est comment faire du commun à partir de cette grande diversité aujourd'hui. Vieille question, mais question qui a des habits neufs, je crois aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous faire d'abord je vais vous faire une petite introduction à partir de l'actualité du temps de travail, pour pointer cette question quand même extrêmement préoccupante que je qualifie de faiblesse culturelle de la gauche ou des gauches dans leur diversité et leurs contradictions face à cette question du temps de travail depuis quelque temps. Cette faiblesse culturelle, je pense qu'elle s'est bien révélée au moment des 35 heures, et je pense qu'on l'a de manière éclatante aujourd'hui sous les yeux. On l'a de manière éclatante dans la mesure où on a d'un côté une stratégie néolibérale qui est assez clairement identifiable en termes de déréglementation généralisée de ce qui a fait les protections du monde du travail, en particulier au regard du temps, mais y compris au regard aussi de la régulation des salaires, par exemple, d'une régulation collective sociale des salaires, mise en question du SMIC, par exemple, qui est un projet des forces libérales. Et face à ce projet de déréglementation généralisée, notamment sur les questions du temps, on n'a pas la riposte à la hauteur. Voilà, je vais partir de cette interrogation et de cette préoccupation qui est la mienne, qui va m'amener dans un premier temps à faire retour sur l'expérience des 35 heures, et essayer de comprendre pourquoi, dans le meilleur des cas, on peut parler d'un demi-échec, ou plutôt dans le meilleur des cas d'un demi-succès, moi je parlerais plus d'un demi-échec, voire d'un échec par rapport aux ambitions qu'on pouvait assigner à cette grande réforme de réduction collective du temps de travail, en donnant un éclairage complémentaire qui est un petit peu le nôtre sur les sources de cet échec. Et c'est ce qui va m'amener au deuxième point, qui va être un peu au centre de mon exposé, c'est-à-dire les nouvelles formes de la flexibilité du temps de travail, qu'est-ce qui se joue derrière, et essayer de comprendre comment une norme de régulation du temps de travail qui s'est constituée, construite, affirmée au cours du XXe siècle, qu'on peut qualifier de norme fordiste ou de norme fordienne du temps de travail, comment cette norme est en train de s'effriter un peu par les deux bouts, par le haut et par le bas. Par le bout, dans le salariat très qualifié, par la montée de formes de flexibilité qui semblent apparemment assez autonomes, c'est-à-dire assez maîtrisées par les travailleurs, et par le bas du monde du travail, effrité par l'apparition de ce qu'on appelle, dans nos recherches, dans cette ouvrage, des normes temporelles, des normes de temps de travail très hétéronomes, très contraintes. Et face à la montée en puissance de ces deux normes de flexibilité, eh bien, les anciennes réponses, les anciennes propositions, les anciennes revendications construites par le mouvement ouvrier semblent limitées, semblent impuissantes à faire face à la montée en puissance de ces nouvelles formes de flexibilité du temps de travail, que je préfère appeler des formes de disponibilité au temps de travail. Parce que flexibilité, vous connaissez la, la positivité qui a priori à cette notion de flexibilité, de souplesse. Non. Posons la question de la disponibilité de temps. C'est-à-dire, le temps, il est disponible pour qui ? Pour l'employeur ou pour le salarié ? Qui maîtrise l'usage du temps libéré éventuellement ? C'est la question, à mon avis, centrale. Puis dans un dernier temps, mais je garderai ça peut-être plutôt davantage pour la discussion, j'aurai beaucoup d'illustrations à faire, notamment dans un monde social, dans des groupes sociaux, professionnels, dans lesquels on a beaucoup enquêté, qui sont les groupes féminins, les groupes de soignantes hospitalières, infirmières et aides-soignantes. Pourquoi on s'est beaucoup intéressé et on s'est passionné pour la manière dont le temps de travail était géré dans cette catégorie? D'abord parce que ce sont des femmes qui sont en première ligne des contradictions du temps, du fait notamment de la double journée du temps de travail domestique et professionnel et de son articulation très compliquée, en particulier quand on est dans des régimes temporels dits atypiques ou dits anormaux, ce qui est le cas de l'hôpital. Vous savez, les hôpitaux, ça fonctionne en continu. Il faut bien des jambes pour nous soigner, nous surveiller quand on y est la nuit en particulier. Voilà. Voilà en gros le plan de mon exposé. Alors, sur l'actualité, j'avais fait des conférences autour de ce livre beaucoup l'an passé à la même époque. C'était à l'époque une déclaration du Premier ministre qui disait « Bon, les 35 heures, c'est pas tabou. Hein, » voilà. Ça donnait déjà une indication. Et puis, là, plus récemment, c'est tout le débat sur l'élargissement ou non de l'ouverture des magasins le dimanche et la nuit. Ah, donc, vous voyez comment, de manière récurrente, ces questions de temps de travail font l'actualité, et je trouve font l'actualité dans un contexte extrêmement qui se caractérise par la faiblesse, comme je le disais, de la riposte de la gauche à ces offensives libérales ou néolibérales, comme vous le voulez. Il y a eu aussi l'accord national interprofessionnel, l'ANI, qui a été transformé en loi, qui permet au nom de la sauvegarde de l'emploi, comme ça avait été déjà le cas dans d'autres pays d'Europe du Sud, comme par hasard, en première ligne des politiques d'austérité et de déréglementation libérale, possibilité au nom de la sauvegarde de l'emploi de négocier des accords qui reviennent en arrière sur à la fois sur le niveau des salaires et sur la question du temps de travail, avec possibilité d'augmenter le temps de travail et de réduire les salaires au nom du sauvetage de l'emploi. Voilà encore un exemple de dynamique de déréglementation qui me semble extrêmement inquiétante. Alors là, un petit rappel quand même, c'est d'autant plus inquiétant que si on refait l'histoire des conquêtes ouvrières, de la réglementation du travail, des objectifs du mouvement ouvrier, on retrouve évidemment la revendication centrale du salaire, et puis, alors de manière moins régulière dans l'histoire du mouvement ouvrier, mais quand même dans les moments forts des grandes conquêtes ouvrières, la question du temps et de la réduction du temps de travail est venue au premier plan. Et si on réfléchit bien, il n'y a pas de progression, il n'y a pas eu de progression possible du salaire sans qu'il y ait un outil auquel l'évaluation du salaire était accrochée, c'est-à-dire le temps. À partir du moment où il n'y a plus d'évaluation possible du salaire horaire, donc s'il y a quelque part une déréglementation complète du temps, on ne voit pas très bien comment on va défendre le niveau des salaires. Donc il me semble qu'on a des enjeux très, très importants derrière ces questions de temps de travail. Et puis alors là, ça va m'amener à introduire une autre réflexion qui est directement issue de ce que je considère comme étant un grand livre et une réflexion très stimulante qui interroge sur la situation difficile dans laquelle est la gauche aujourd'hui. C'est le livre de Bruno Trentin qui s'appelle « La cité du travail, la gauche et le fordisme », dans laquelle ce dirigeant ou cet ancien dirigeant du mouvement syndical et politique communiste italien fait le diagnostic suivant en quelques mots, c'est que le mouvement ouvrier syndical et politique, dans sa majorité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des courants minoritaires qui ont contesté cette orientation, a finalement choisi de focaliser son action à l'intérieur d'un compromis social qui est le compromis du fordisme, c'est-à-dire sans remise en question de la division taylorienne du travail, sans remise en question de la manière de produire les biens, sans remise en question de l'organisation hiérarchique du travail. Et il explique dans un ouvrage qui est extrêmement fouillé et extrêmement nourri d'ailleurs des débats théoriques du mouvement ouvrier du début du XXe siècle, il explique en quoi cette impasse sur le travail, sur la qualité et le contenu du travail, au profit d'une focalisation des revendications sur le salaire et sur la redistribution, en quoi cette impasse sur le travail et sur l'expertise et l'expérience du travail des travailleurs de base a conduit ce mouvement ouvrier à reproduire en son sein des formes d'organisation extrêmement délégataires, parfois bureaucratiques, qui s'alignaient finalement sur le modèle qui était celui de l'État, dont on pensait que la conquête de l'appareil d'État allait permettre ultérieurement une extension de la démocratie. Donc je crois qu'il y a une réflexion extrêmement stimulante qui va me servir, quand on revient sur les questions du temps de travail, sur les incidences multiples d'une certaine impasse qui a été faite sur les enjeux de contenu, de qualité et d'organisation du travail dans l'histoire des luttes ouvrières. Alors ensuite, revenons en quelques mots sur la question des 35 heures. Si je regarde un petit peu la moyenne d'âge de cette salle, la plupart d'entre vous, vous avez quand même connu, c'est pas très vieux, c'était cet épisode important de la vie politique française, qui a fait énormément de débats, beaucoup d'encre a coulé à cette époque. Je dis dans la conclusion de mon livre que c'est une passion française, la question du temps de travail en France. Et d'ailleurs, beaucoup d'observateurs étrangers regardaient de près cette expérience qui semblait déjà, à l'époque, complètement atypique et à contre-courant par rapport à l'évolution généralisée ailleurs, c'est-à-dire une flexibilisation et une tendance à l'allongement, finalement, de la durée du travail qu'on la mesure à l'échelle de la semaine ou de la vie. C'était déjà engagé dans la plupart des autres pays voisins en particulier. Et en France, on se singularisait en se demandant... ça fait d'ailleurs partie d'une très belle scène d'un film de Woody Allen où il idéalise complètement la situation française, où on voit dans un jardin d'enfants des jeunes parents qui passent leur temps à s'occuper de leurs enfants. La France, c'est la France des 35 heures, c'était la France du temps libre. C'était assez amusant ce regard de Woody Allen sur la France. Bref, tout ça pour vous remettre ça en situation. À l'époque... ces Français qui se mettent à débattre d'une réduction du temps de travail, voire d'une réduction du temps de travail sans diminution de salaire, c'était complètement exotique, quoi. En fait, il y a eu deux lois Aubry 1, la loi Aubry 1 et la loi Aubry 2. Et je crois qu'il faut se souvenir que ce sont deux lois dont le contenu social et politique est très différent. Notamment parce que la première loi, qui était une loi incitative, qui encourageait la négociation de branches et d'entreprises, qui n'était pas une loi au sens strict du terme, et qui devait nourrir les débats préliminaires à la loi Aubry 2, qui, elle, avait une vocation d'extension et de généralisation des fameux 35 heures. Eh bien, la première loi, en particulier, elle mettait deux butées essentielles par rapport à un usage régressif de la diminution du temps de travail. Première butée, on ne modifie pas la manière de compter le temps de travail. Par exemple, si le temps de pause est en dehors du temps de travail, il faut qu'il reste en dehors du temps de travail. Par exemple, un exemple parmi d'autres. Et deuxièmement, il faut que la diminution du temps de travail soit compensée, alors non pas à 100%, mais avec une proportion importante, par des embauches. Et ces deux butées essentielles qui étaient présentes dans la première loi Aubry disparaissent dans la seconde loi Aubry, qui, à sa manière, il faut bien le dire, enregistre un rapport de force qui n'était pas un rapport de force extrêmement favorable au monde du travail et au mouvement syndical à l'époque. Hein. Il y a bien d'autres explications hein, des insuffisances de la deuxième loi, en particulier les divisions syndicales importantes hein, qu'il y avait sur la conception même de la réduction du temps de travail. Donc le bilan, ben, il a été fait assez rapidement. Hein. Moi, j'ai tendance à dire que le bilan des 35 heures, c'est ni l'enfer que décrit depuis le début le CNPF puis le MEDEF, ni le paradis que décrivent les partisans les plus chauds des 35 heures, hein, qui ont tendance à gonfler le solde positif de création d'emplois associé aux 35 heures, et qui ont tendance à euphémiser quelque chose de très important, c'est-à-dire la dégradation des conditions de travail, l'intensification du travail associée au passage aux 35 heures dans une grande partie du monde du travail, en particulier le monde du travail le plus exploité, le moins qualifié, du côté des ouvriers, des employés d'exécution. Effectivement, quand on regarde un peu plus objectivement le bilan, c'est ni l'enfer ni le paradis, mais c'est quand même pas très brillant par rapport aux objectifs initiaux. Alors, à ces raisons assez connues, hein, qui ont été assez débattues, assez connues, et qui reviennent sans arrêt d'ailleurs dans le débat public, quand il y a un débat public sur le bilan de cette expérience, je vais en ajouter un autre, qui est en fait le cœur de mon propos, qui est ce que j'appelle la transformation des modalités de la disponibilité temporelle au travail. Alors c'est un petit peu jargonneux peut-être, mais je tiens ce mot de disponibilité temporelle, parce que comme je disais tout à l'heure, il met bien l'accent sur cette question de disponibilité de qui, pour qui. La vision du travail qui est sous-jacente à la vision traditionnelle de la réduction du temps de travail, c'est tout de même celle selon laquelle on peut partager un volume donné de travail abstrait, indifférencié, que l'on peut aisément mesurer et contrôler par le temps de l'horloge. Hein, vous savez, ce temps de l'horloge, qui est une invention relativement récente hein, dans l'histoire humaine, qui permet d'écraser les qualités du temps, hein, puisqu'on ramène les différentes séquences du déroulement vivant de la vie à une unité abstraite de compte, hein, qui est par exemple l'heure, la minute, la seconde. Hein. Et quand on mesure, par définition, on abstrait les qualités du temps. Or le temps de vie, il est plein de qualités, et on est tous très bien placés pour savoir qu'on est, par exemple, beaucoup plus en forme souvent le matin que le soir, ou en début de semaine qu'en fin de semaine. Hein. Les ergonomes ont beaucoup étudié ça, hein. Les ergonomes qui étudient de très près l'activité et l'efficacité sur le poste de travail vous disent, attention, une heure ne vaut jamais une heure, y compris à la belle époque du fordisme et du taylorisme. Or, j'insiste là-dessus, l'approche traditionnelle de la réduction du temps de travail, c'est de dire que finalement, on va diminuer le temps de travail et on va pouvoir embaucher, on va devoir embaucher, à condition de productivité inchangée, en proportion de la force de travail nouvelle. Or, ce raisonnement qui était déjà très bancal à l'époque des temps modernes, à la Charlie Chaplin, à l'époque de l'organisation taylorienne du travail, à l'époque où le travail correspondait à cette figure hein, qui s'efface tout doucement de notre paysage, mais qu'on a toujours quand même un petit peu en tête, je crois, en tous les cas, ceux de notre génération, quoi, cette figure de la grande usine, avec une unité hein, de temps et de lieu, et d'action comme au théâtre, eh bien cette figure du travail où on a des grands collectifs qui sont rassemblés en même temps pour œuvrer au travers d'un travail extrêmement divisé, interchangeable, où une heure vaut une heure dans une seule unité de temps et de lieu, comme je dis, cette figure s'efface peu à peu de notre paysage. Le monde du travail, ce n'est plus ça, même s'il y a encore des morceaux du monde du travail qui ressemblent à ça. Alors comme je le disais en introduction, ce monde du travail, cette figure du travail se défait à la fois par le haut et par le bas. Hein? Alors par le haut, pourquoi par le haut? Parce que ça touche plutôt des professionnels hautement qualifiés, des cadres, des ingénieurs, des professions libérales, des intellectuels, des chercheurs, des artistes. où on voit qu'il y a des tas d'activités qu'il est particulièrement difficile d'évaluer au travers de leur durée. Hein. Il n'y a pas de rapport aussi direct qu'auparavant entre la durée de l'engagement dans l'activité et puis la performance qui en résulte. D'ailleurs, si on prend le temps, on pourrait d'ailleurs discuter des activités artistiques hein, ou des activités sportives dans lesquelles il y a la partie visible de la prestation hein, qu'on croit pouvoir évaluer, et puis il y a toute la partie invisible de la répétition, de la préparation, des entraînements. Hein. Voilà une figure de travail qui amène à réfléchir qu'est-ce que c'est finalement le travail, qu'est-ce que c'est le travail visible, le travail invisible, le travail qu'on rémunère, le travail qu'on mesure. Bon, et tout ça pour vous sensibiliser au fait que cette figure du travail est difficile à mesurer, difficile à partager, parce qu'il n'est plus interchangeable de manière hein, aussi simple qu'on le pensait, et bien c'est une figure qui se développe, qui se multiplie dans notre société. Alors, du côté des cadres sur lesquels on avait commencé d'ailleurs à travailler à la fin des années 90, hein, on nous posait la question comment faire bénéficier les cadres des 35 heures hein. Donc avec mon ami Jacques Bouteillé, on a étudié un certain nombre d'accords dits pionniers qui s'inscrivaient dans une loi un peu plus ancienne qui était la loi d'Eurobien, hein, qui était une loi qui permettait effectivement, dans des conditions qui paraissent a posteriori exceptionnellement intéressante, une réduction de la durée du travail compensée par des embauches. Eh bien, il y avait effectivement un certain nombre d'accords qui concernaient des cadres, et on s'était aperçu que, dans la plupart des cas, déjà, les cadres, ils ont fait un bilan assez mitigé de leur diminution du temps de travail, parce qu'ils avaient l'impression de faire la même chose ou plus en moins de temps, finalement. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que leurs objectifs, leur charge, objectif de travail, était hors champ de la négociation, tout simplement. Et qu'on avait trouvé très peu d'accords dans lesquels était négocié en même temps que la durée, et la gestion de cette durée sur l'année, avec la formule du forfait notamment, hein, forfait jour c'est très bien, pourquoi pas, à condition qu'on discute des objectifs et de la charge, parce que sinon vos journées vont s'allonger, et vous allez travailler chez vous le soir et chez vous la nuit. Hein. Donc, cette solution du forfait qui a été fortement généralisée hein, à l'époque des 35 heures et depuis aux populations hautement qualifiées de cadres et d'ingénieurs, donc c'est la solution du forfait jour. Au lieu de compter en horaire hebdomadaire votre temps de travail, on va le compter en journée, année. Eh bien, ce n'est pas une solution suffisante s'il n'y a pas de négociation en même temps, de discussion des objectifs. Hein. Or, nous sommes dans des groupes sociaux, dans des catégories sociales dans lesquelles on ne peut pas dire qu'il y ait une forte tradition de discussion collective sur les objectifs. Voilà, donc je désigne un problème énorme qui est celui de la capacité collective d'organisation des salariés. Là ça va être les salariés très qualifiés, hein, dont on sait qu'ils sont parmi les moins syndiqués. Ou quand ils sont syndiqués, c'est souvent dans des syndicats qui se préoccupent très peu de ces questions de charge de travail ou d'objectifs ou de définition des objectifs, mais on va retrouver le problème chez les moins qualifiés, hein, la question de la capacité d'une organisation collective à aller au-delà des questions de durée et de temps pour voir les contenus, les enjeux qualitatifs qui sont derrière, faute de quoi on risque d'être piégé, c'est-à-dire d'avoir une diminution formelle de la durée du travail mais une aggravation réelle de la charge de travail et donc une disponibilité effective de temps en dehors du travail pour des activités choisies qui continuent à se dégrader. Donc la diminution formelle de la durée du travail ne garantit absolument pas une libération effective du temps disponible pour soi. Donc voilà, premier exemple, c'est celui des cadres. Et alors si on regarde du bas, vers le bas, alors moi je m'appuie toujours sur... un ouvrage qui n'est pas un ouvrage d'une sociologue, mais qui est de fait un très bel ouvrage de sociologie, c'est l'ouvrage de Florence Aubenas, lequel Louis Rehm. Là, vous êtes dans le monde de la précarité féminine, dans laquelle vous pouvez très bien faire des journées de 15 heures en étant rémunéré 5 heures. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé de prendre votre voiture ou l'autobus pour aller à Perpète faire une partie de votre prestation quand vous êtes femme de ménage, par exemple, et que vous travaillez en sous-traitance, hein, pour plusieurs employeurs, en fait. pour plusieurs donneurs d'ordre qui emploient votre société, qui vous emploient formellement, votre société de prestations de ménage par exemple. Ben vous allez travailler un petit peu le matin très tôt, un petit peu le matin très tard, pas dans les mêmes endroits forcément, et donc vous allez avoir, en plus, dans le meilleur des cas au SMIC, une rémunération dérisoire pour un temps de travail extensif. Hein. Donc sous un visage complètement contraire, vous avez le même problème qui se pose, c'est-à-dire la disjonction entre les outils traditionnels de mesure du temps et la disponibilité effective de votre temps. Donc ça concerne le nettoyage, la propreté, comme on dit, le ménage dans les hôtels, le commerce, les caissières, les employés de libre service, etc., qui très souvent sont une population donc de femmes peu qualifiées, à temps partiel contraint, qui sont exposées à ce qu'on appelle dans le livre une flexibilité hétéronome, au sens où elles ne maîtrisent pas leurs horaires. C'était assez amusant de voir, j'étais à un séminaire qui ne parlait pas directement de ces questions, mais l'autre jour à Paris, c'est au Portugal que ça se passait. Hein. C'est une collègue qui va parler à Lyon demain, qui s'appelle Karen Messing, qui est une ergonome canadienne. C'est pas elle qui présentait ce travail, c'était des collègues de Porto. Donc qui nous montrait, qui avait fait un schéma des horaires de deux générations de chauffeurs de bus de la ville de Porto. Il se trouve que la génération la plus ancienne, c'était que des hommes. Maintenant, il y a, parce que le thème du séminaire, c'était la question du genre, genre et risques psychosociaux. Et parmi la génération la plus jeune, il y a quelques femmes. C'est un des métiers qui se féminise un peu partout, tout doucement, mais qui se féminise. Hein. Vous voyez un peu partout des femmes qui conduisent des autobus. Or, les nouvelles générations, très souvent dans les transports urbains, les nouvelles générations de conducteurs ou de conductrices sont embauchées selon des régimes horaires qui sont beaucoup plus anarchiques que les régimes anciens, les régimes horaires des anciens chauffeurs, qui sont beaucoup plus réguliers, avec début et fin des heures quotidienne régulier, avec des jours réguliers en semaine, etc. Et quand on regarde les schémas horaires des jeunes, les débuts de journée, ça varie beaucoup plus, les fins de journée, ça varie beaucoup plus tôt le matin, beaucoup plus tard le soir, des coupures au milieu. Hein. Alors ce qui était assez amusant quand même, là, quand même, dans ce cas, ça c'est une note d'optimiste, parce qu'il y avait des couleurs pour chaque activité, hein, donc repos, travail, etc. Et puis il y avait une troisième couleur, c'était grève. Et là, c'était en jaune, je trouve que c'était en jaune. Et là, on voyait apparaître deux demi-journées de grève chez la jeune conductrice de bus, et on n'avait pas de grève chez la génération plus ancienne. Bon. Vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de mouvements sociaux au Portugal qui se sont développés. Voilà, je parlais tout à l'heure de la figure de la grande entreprise industrielle avec son unité de temps, de lieu. Et vous voyez bien comment la question du lieu aussi se pose en même temps que la question du temps, hein, puisque qu'il s'agisse du professionnel hautement qualifié pour qui il est très difficile de dire où il travaille, hein, quand on est avec un ordinateur portable ou avec un mobile, sans ces nouveaux outils, quand on est un travailleur intellectuel, c'est bien difficile de dire quels sont les lieux où on travaille le plus et le plus efficacement. C'est pas forcément au bureau. Hein. Et quand on est une travailleuse du nettoyage qui a plusieurs lieux de travail, là aussi, qui passe beaucoup de temps à se déplacer d'un lieu à l'autre, il n'y a plus l'unité de lieu. Hein. Donc dans les deux cas, on rencontre le problème de cette unité de lieu, qui rend extrêmement difficile la bataille traditionnelle pour la diminution du temps de travail. Alors je l'ai dit pour la figure du cadre. Hein. La figure du cadre, mais en fait la figure du cadre ne fait qu'accentuer cet enjeu de la capacité à peser sur la charge de travail, à décider ou à négocier la charge de travail. Puisque quand on refait l'histoire de la diminution du temps de travail, chaque grande conquête, c'est le cas par exemple en 36, hein, avec les 40 heures, chaque conquête en termes de réduction de la durée du travail a immédiatement été contrecarrée par le patronat, par un effort de rationalisation et d'intensification du travail pour regagner ce qu'il avait perdu. Hein. C'est-à-dire pour arriver à défendre le profit. Quoi. Donc c'est une question ancienne, celle de pouvoir aussi peser en même temps sur le temps de travail et sur la charge de travail, sur l'intensité du travail. Le temps de travail n'est véritablement libéré que si la charge de travail ne s'accroît pas. Parce que si la charge de travail devient plus lourde, on est plus fatigué, on est moins disponible, etc., en dehors du travail. Bon. Et vous voyez comment la figure du cadre et la figure du temps de travail du cadre aiguise cette vieille question de comment on maîtrise, comment on résiste à l'intensification du travail et à cette définition hétéronome de ce que nous avons à faire, de ce que l'organisation du travail décide que nous avons à faire. Donc la conclusion, c'est que sans intervention simultanée des collectifs de cadres sur les questions de leurs objectifs, qui et comment sont définis leurs objectifs, s'il n'y a pas en même temps une intervention sur ce plan, ce qui est tout sauf simple, eh bien, ils seront les nanons de la farce. C'est-à-dire qu'ils auront peut-être une diminution, ils ont eu effectivement une diminution formelle de leur durée de travail, mais pas forcément une diminution effective qui permette de souffler, de développer des activités de son choix en dehors du travail. Encore que toutes les études ont montré que ce n'étaient pas les plus malheureux dans l'affaire. Hein. On dit très souvent les cadres, les grands bénéficiaires de la réduction du temps de travail, notamment parce que c'est chez les cadres qu'on a eu cette réduction sous forme de demi-journée ou de journée, hein, les journées de réduction du temps de travail. C'est aussi la question des modalités de la diminution du temps de travail qu'on pourra discuter, qui est une question compliquée, mais vraiment j'insiste là-dessus, une modalité franche en termes de journées libérées n'est pas forcément la solution à tous les problèmes. Hein. D'autant plus qu'elle pose d'autres problèmes en termes d'organisation des collectifs, des réunions, etc. Hein. Ça, c'est du côté du salariat hautement qualifié. Du salariat moins qualifié, j'ai fait référence au travail de Florence Obna. On pourrait parler de tas d'autres belles enquêtes qui ont été faites dans les milieux prolétaires d'aujourd'hui. Hein. Le prolétariat des services d'aujourd'hui. Là, il y a une autre énorme question qui se pose. Et au fond, pour moi, ces deux questions, celle de l'intervention sur le travail et son organisation d'un côté, avec y compris tous les enjeux en termes de santé mentale au travail aujourd'hui, et de l'autre, la question de la précarité, parce que finalement, ces femmes qui sont surexposées à ce que j'appelle la flexibilité hétéronome du temps de travail, elles le sont parce qu'elles sont en position fragile sur le marché du travail. Elles le sont parce qu'elles sont, elles se retrouvent face à un temps, au temps partiel contraint. Elles sont obligées d'accepter des heures à des horaires très matinaux et très tardifs parce qu'elles sont en position fragile sur le marché du travail. Manque de qualification, faible salaire. Etc., etc. Donc il me semble que de ce côté-là, derrière les questions de temps de travail, il y a entre autres la question des conditions réelles de sécurisation de l'emploi et du travail qui sont posées. Hein. J'imagine mal améliorer la condition salariale de ces travailleurs et de ces travailleuses du bas de l'échelle sans imaginer des nouvelles formes de protection du travail et de l'emploi. Et autre enjeu qui a été bien posé par une doctorante qui vient de soutenir une belle thèse, et Sophie était dans le jury avec moi la semaine dernière à Aix-en-Provence, sur le secteur du nettoyage, hein, une comparaison des pratiques syndicales à Marseille et à Bologne. Le point aveugle, c'est la question de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne remet pas en question la sous-traitance, quand on est dans le secteur du nettoyage, hein, du nettoiement, de la propreté, comme vous voulez, dans la mesure où c'est la détérioration régulière des contrats qui sont passés entre les donneurs d'ordre, qui sont les hôpitaux, qui sont les banques, qui sont les universités, hein, qui sont des grandes institutions qu'on connaît, hein, les uns et les autres, dans lesquels il y a souvent des syndicats, mais dans lesquels ces travailleurs et ces travailleuses sont invisibles, hein, et avec lesquels il y a très peu d'action commune, justement. Donc, si on n'arrive pas à poser cette question d'abord de la solidarité entre les salariés des donneurs d'ordre et les salariés des prestataires, et à terme de la remise en question de la responsabilité des donneurs d'ordre dans la qualité des contrats, je ne vois pas comment on peut améliorer les différentes facettes de la condition salariale de ces femmes de ménage, par exemple. Et parmi les différentes facettes de la condition salariale, il y a le temps et la maîtrise du temps. Il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, il y a aussi les conditions de travail, l'intensité du travail, le salaire, tout ça se tient, hein. Et d'ailleurs, une des grandes faiblesses de la manière dominante dont a été prise la question des 35 heures à l'époque, c'est une approche trop morcelée des différentes facettes de la condition laborieuse, si vous voulez. Je pense qu'un des problèmes, c'est d'arriver à tenir ensemble les questions de salaire, de contenu du travail et d'organisation du travail, d'intensité du travail, et les questions de temps. Si on déconnecte ces différentes dimensions de la condition laborieuse, on est forcément perdant, globalement, je dirais. Bon, c'est facile de dire ça, après, comment on fait. Enfin, c'est pour susciter un peu la discussion, hein, que j'avance des choses comme ça. Et je termine en disant quoi ? Simplement une seule idée sur les soignantes, parce que c'est une idée aussi qui court d'un bout à l'autre du livre, et que j'essaye d'illustrer peut-être un peu plus concrètement et de manière plus convaincante dans la dernière partie qui est consacrée à ces infirmières et à ces aides-soignantes. C'est la disjonction, le décalage entre la manière dont on peut se débrouiller pour individuellement mieux maîtriser son temps, mieux gérer son temps en fonction de ses contraintes de vie, et la manière dont ces questions sont poussées sur la scène collective de la lutte et de la négociation. Là, il y a une disjonction qui m'a semblé vraiment frappante quand on a commencé à enquêter à l'hôpital. C'était à l'hôpital d'Aix-en-Provence, c'était en pleine négociation des 35 heures. On a discuté avec les infirmières, elles nous parlaient toutes du temps partiel et de leur difficulté d'obtenir ce qui était un droit, ce qui est toujours un droit en principe dans la fonction publique, c'est la possibilité de passer à temps partiel et de revenir à temps plein quand on veut. C'est une conquête extraordinaire, hein, quand on réfléchit à ce qui se passe dans d'autres secteurs du monde du travail. Donc, c'est un droit, mais c'est pas un droit si effectif que ça, parce que s'il n'y a pas assez de personnel, on vous dit non, vous ne passerez pas à temps partiel, faut attendre, etc. Faire une demande, c'est souvent long. Bref, alors que se négociait la question des 35 heures, la scène de la négociation collective était complètement décalée par rapport au vécu, comme on dit, personnel de ces infirmières qui étaient principalement attachées à ce qui avait été pour elles une conquête, avant même qu'on parle de réduction collective du temps de travail, c'est-à-dire la possibilité de passer de manière choisie et réversible au temps partiel. C'est-à-dire au temps partiel, c'est, hein, vous savez, c'est la demi-journée ou la journée qui permet de s'occuper des enfants le mercredi. Hein. En gros, c'est le modèle du temps partiel choisi dans la fonction publique ou dans les secteurs dits protégés, qui s'oppose au modèle du temps partiel contraint qui n'a strictement rien à voir. Voilà. Et j'ai continué à réfléchir en écoutant avec beaucoup d'attention ce que racontaient des infirmières ou des aides-soignantes qui étaient passées de nuit et qui s'étaient attachées au travail de nuit. Hein. Alors qu'on sait, et elles savent, combien le travail de nuit est nocif pour la santé, pour la longévité, avec toute une série de risques professionnels associés au travail de nuit régulier. Mais en même temps, il y avait un attachement. Et donc j'essaie de comprendre cet attachement. Et cet attachement, il était quand même très fortement motivé par le sentiment de temps libéré. Le sentiment de temps libéré pour s'occuper de ses enfants, dans un champ de possible qui est quand même assez étroitement défini à l'hôpital. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas la nuit, vous faites matin-soir, en gros. Hein. Et matin-soir, c'est matin très tôt, soir très tard. Et bon, la vie de famille et les enfants, c'est extrêmement compliqué. Hein. Pour un certain nombre de soignantes, infirmières, aides-soignantes, au prix, et très souvent au prix conscient de sacrifices sur la santé, sur le sommeil, sur l'alimentation, etc., il y avait un choix qui était positivé en termes de réappropriation de son temps. Hein. Et donc voilà, j'ai voulu montrer les décalages qu'il pouvait y avoir entre certains discours généraux, hein, qui sont justes sur un certain plan, nocivité du travail de nuit par exemple, ou objectif de réduction collective du temps de travail, et puis ce qui se vivait sur la scène quotidienne, personnelle, privée, des arrangements avec le temps, hein, des efforts pour se réapproprier ces temps. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour réarticuler un petit peu ces deux scènes, la scène privée, des efforts, des résistances que chacun fait pour se réapproprier ses temps, et la scène collective où les luttes pour une réduction collective du temps de travail et un temps et davantage de temps pour soi, eh bien il y avait une certaine disjonction, hein, qui s'était produite au fil du temps entre ces deux scènes et qu'il fallait absolument trouver les moyens de reconnecter ces deux scènes. Et je pense que je concluais aussi sur l'importance d'articuler les échelles du temps, hein, quand on réfléchit aux réductions du temps de travail. Hein. C'était avant la énième réforme sur l'allongement du temps de travail au long de la vie, hein, avec le recul de l'âge à la retraite qui est programmé. Hein. Ça me semble très important aussi d'articuler, hein, les combats pour l'échelle de la vie, du temps pour l'échelle, pour le temps à l'échelle de la vie, c'est-à-dire le combat pour une retraite décente et plus précoce que celle qui se prépare, et une réduction aussi de la durée du travail à des échelles plus limitées, l'année, le mois, la semaine. Hein. Là encore, peut-être essayer d'éviter d'opposer le combat pour maintenant la réduction de l'âge à la retraite, disons-le, de départ à la retraite, et le combat pour une diminution du temps de travail, peut-être voir à l'échelle quotidienne, peut-être aussi à l'échelle quotidienne qu'on aurait beaucoup à gagner. Ouais, j'espère pas avoir été trop long et pas vous avoir trop perdu, mais en gros, voilà mon message, et maintenant vous voyez bien qu'il y a énormément de points de discussion possibles, et je suis à votre disposition. Merci. Il n'y a pas de président de séance chez vous ? Non ? Vous êtes suffisamment discipliné pour demander la parole les uns après les autres ? C'est très bien. Donc, monsieur, allez-y.
Oui. Je crois que c'est une certaine importance entre ce que qu'on peut appeler la définition du travail par les contrats de travail, par les lois sociales, ce qu'on peut appeler donc la soumission formelle, ce que Marx appelait la soumission formelle. Et ce que Marx appelle la soumission réelle, c'est-à-dire le travail tel qu'il est organisé dans les entreprises. On voit de plus en plus, enfin, moi j'ai vécu ça dans ma carrière, puisque j'ai commencé à travailler dans les années 65, j'ai terminé dans les années 2005-2006, j'ai commencé comme métallo, j'ai fini comme ingénieur informaticien, et même comme dirigeant, donc j'ai vu toute cette... ces évolutions, et je les ai vécues dans des milieux différents. Dans l'entreprise, l'organisation du travail dans l'entreprise, elle est décidée par la direction de l'entreprise. Alors, elle est encadrée, bien sûr, par ce qu'on peut appeler donc un contrat de travail, par des lois sociales. Mais l'organisation réelle de l'entreprise, la gestion du temps de présence dans l'entreprise, la gestion de la manière de travailler dans l'entreprise, elle est décidée uniquement par la direction de l'entreprise, aidée par des cadres, des ingénieurs qui font en sorte que ce travail donne le plus de plus-value possible. C'est clair ? C'est vraiment ce que l'on vit dans l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas cette remise en cause, une remise en cause de la définition du temps de travail par l'ensemble des gens qui travaillent, et non plus par la direction aidée par les ingénieurs et les cadres pour définir une manière de travailler, je crois que on reviendra toujours à ce que l'on vit, une remise en cause en permanence des lois sociales, des lois de protection sociale, par la réalité du travail dans l'entreprise. Moi, je vois, par exemple, au plus fort du taylorisme, au niveau du bureau des méthodes, le temps de travail était calculé à ce qu'on appelait le DMH, le 10 millième d'heure. C'est-à-dire que chaque tâche était définie au niveau du 10 millième d'heure. Ça paraît aberrant, on dit c'est pas possible, et pourtant c'était la réalité. Alors, dans la réalité, c'était peut-être pas ça, mais... Donc c'était complètement abstrait, et c'est ça qui contraignait le travail. Et évidemment, le travail était complètement... fallait pas que les gens... Et le travail, j'ai vu aussi cette évolution. Au départ, on avait les ouvriers des OHQ, des tourneurs, des choses comme ça, qui avaient un métier hautement qualifié, hein, les OHQ. Mais l'organisation des entreprises, avec l'augmentation de la productivité et l'augmentation du machinisme, tend à faire en sorte que les tâches non intellectuelles, parce qu'il y a toujours cette grande séparation entre travail intellectuel et travail manuel, les tâches manuelles, les tâches non intellectuelles sont de plus en plus simples et de plus en plus contraintes. Il n'y a qu'à voir, par exemple, un article qui est paru dans le Monde diplomatique du mois de novembre sur l'organisation du travail dans les entrepôts de Amazon. Et moi, je l'ai vécu dans un entrepôt de la grande distribution pour les ventes sur Internet, hein, quand ils ont mis en place la contrainte que les gens subissent dans ce type d'entrepôt. Ils n'ont plus aucune initiative, ils sont conduits par des terminaux portables qu'ils ont dans la main pour le trajet qu'ils doivent suivre dans l'entrepôt pour préparer les commandes. Ils n'ont plus à réfléchir. Parce que il faut pour ce type d'entreprise qui fait plus de 40% de ses commandes dans les 2-3 derniers mois de l'année, il faut qu'ils puissent embaucher des gens, les mettre au travail tout de suite sans les former, puisqu'ils sont là vraiment très temporairement, et qu'ils puissent s'en séparer tout de suite. Enfin, voilà. C'est un travail de plus en plus simplifié. Voilà. Donc je crois que tant qu'il y aura cette organisation du travail voulue par le capitalisme, la partie formelle, défense des droits du travail, défense ça, elle sera toujours remise en cause, et c'est toujours l'organisation de l'entreprise qui aura le dernier mot.
Bon, merci pour cette contribution substantielle. J'aimerais qu'il y ait 2 ou 3 autres interventions pour voir un peu vers comment on oriente la discussion, parce que là, il y a déjà toute une orientation possible autour des modes actuels de rationalisation du travail qui ne se limitent pas tout à fait à ce que vous décrivez, je pense. Hein. Et donc, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir par rapport aux logiques structurelles du capitalisme, comme vous dites, quelles sont les contradictions qui se développent et quels sont les points d'appui sur lesquels un mouvement progressiste pourrait s'appuyer pour aller de l'avant. Hein. Donc, on va peut-être essayer d'en discuter. Oui, monsieur.
Vous dites que les organisations syndicales sont parfois effectivement c'est possiblement de la notion de contrat de travail, mais le syndicaliste, l'organisation que je suis, ça fait quand même quelques années qu'on travaille de plus en plus la notion d'organisation du travail et la notion de santé au travail. Parce que la difficulté, comme vous disiez, c'est d'amener un cadre collectif. Et pour amener un cadre collectif, déjà à des militants et surtout à des collègues qui ne sont pas forcément syndicalistes, amener frontalement la notion du temps de travail, c'est quand même assez hermétique, ils ne comprennent pas forcément. Mais l'amener sur l'organisation du travail, sur la notion de poste, la notion de responsabilité et d'intervention individuelle sur son travail, et comment intervenir par rapport à sa directionnelle en dans un cadre collectivement, peut-être peut arriver à la notion de parler du temps de travail. Étant donné que vous disiez, c'est quand même c'est contraint, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous, on n'a pas un panel de temps, c'est-à-dire d'organisation, d'organiser son temps de travail comme on le désire. On est contraint. Donc, la question c'est les organisations syndicales, elles essaient d'arriver à des bouts.
Je suis d'accord, hein, qu'il y a, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, puisque dans les recherches que je fais actuellement, et qui se sont beaucoup orientées justement sur les questions de santé et de travail, parce que j'ai l'impression qu'au travers de... Il y a quelque chose de neuf quand même depuis quelques années, dans notre pays en tous les cas, c'est que, j'allais dire, pour la première fois depuis 25 ou 30 ans, les questions d'emploi et de chômage n'écrasent plus complètement les questions de travail, de qualité du travail et de santé au travail. Et via suicide au travail, stress, risques psychosociaux, on a un certain nombre d'organisations syndicales, et je suis assez au courant quand même de ce qui s'expérimente, hein, dans les différentes centrales syndicales. Ça m'intéresse énormément. La question que je me pose, c'est quelle est l'ampleur que ça prend et quel est l'impact que ça a, compte tenu de ce que j'ai pointé, c'est-à-dire quand même d'un retard historique. Hein, d'une tendance historique qui, d'une culture finalement qui s'est installée et qu'on ne dépasse pas facilement. Hein. Ce qui est intéressant, je vais embrayer un peu là-dessus, puis après je vais pas répondre, mais commenter votre commentaire. Hein. Il semble que les secteurs dans lesquels émergent le plus fortement les préoccupations liées à la santé mentale au travail sont pas forcément les secteurs où il y avait les traditions syndicales les plus fortes. Hein. Dans les enquêtes qu'on fait actuellement, bon, c'est encore très provisoire ce que je soumets là, on a quand même un certain nombre de cas d'entreprises industrielles avec un syndicalisme un peu classique assez fort sur un certain nombre de risques traditionnels, mais quand les questions santé mentale ou de risques psychosociaux, comme on dit, je pourrais faire tout un couplet pour dire que j'aime pas et que je suis pas d'accord avec cette appellation, mais bon, elle existe, donc prenons-la en la mettant entre guillemets, je préfère parler de santé mentale au travail, eh bien il y a une certaine, encore plus qu'ailleurs, une certaine difficulté à prendre en charge ces questions, syndicalement, de santé mentale au travail, parce que on a quand même été habitué à lutter et à négocier sur des enjeux qui sont salaire, sécurité au travail, voire négociation du risque, rémunération du risque, hein, sur les questions de santé mentale au travail, est-ce qu'on peut monnayer le risque? Je pense que c'est beaucoup plus difficile. Aller demander une prime pour une situation de travail particulièrement exposée, exposant particulièrement votre santé mentale, j'ai pas encore d'exemple sous les yeux. Hein. C'est une bonne chose pour moi. Hein, c'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on peut faire avancer des revendications, c'est en allant au fond de qu'est-ce qui génère les problèmes de santé mentale au travail, et ça va m'amener à rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à mon avis, cette forme de rationalisation taylorienne du travail n'est pas la seule qui progresse, parce que nous sommes dans une société de service. Vous prenez l'exemple d'Amazon, certes, il y a des espaces dans notre société de service qui sont soumis à une forme de rationalisation taylorienne, j'allais dire extrêmement classique. Mais dans la plupart des cas, on a une forme de rationalisation taylorienne d'activité langagière, par exemple, je prends l'exemple des centres d'appel ou du conseil, les métiers du conseil, etc., qui mettent les travailleurs dans des situations impossibles. Hein, c'est-à-dire que les travailleurs sont amenés à répéter des phrases, par exemple, de manière séquentielle, d'une manière qui rend fou, hein, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas rationaliser la pensée comme on rationalise les gestes. Quand vous ajoutez que très souvent on oblige ces travailleurs et ces travailleuses à faire des choses contraires à ce qu'ils a construit professionnellement, hein, dans les choses, hein. D'ailleurs dans les enquêtes on commence à poser cette question: votre travail vous amène-t-il à faire des choses contraires à vos valeurs? Et quand les gens répondent oui, c'est très prédictif d'atteinte à la santé mentale au travail. Il y a une corrélation très forte. Le conseiller en centre d'appel à qui on oblige à vendre des services inutiles aux clients, vous voyez, tout à fait, c'est insupportable pour lui. Voilà. Donc, ça permet, ça ouvre un espace d'intervention sur le contenu de ce qui est fait, sur la qualité du travail, sur le sens du travail, qui est inédit, inédit pour l'action syndicale, par exemple. Il y avait une demande d'intervention par là-bas, et puis en plus bas après.
Je ne sais pas comment je voulais faire ça, mais c'était pour rebondir à la question de la subvention réelle dont vous parliez. Et je ne pense pas qu'en fait, à mon avis, il faut le voir comme la partie, enfin une partie de la solution. C'est-à-dire que si on regarde la subvention réelle, c'est-à-dire justement l'application de la synergie au matérialisme, ça permet effectivement d'augmenter la temps de travail et les cadences. Je vois la demande industrielle, par exemple, de côté. Et que justement, je pense que la question, la manière dont vous posez la question est intéressante dans le sens où ça oblige aussi les syndicalistes, enfin, le mouvement syndical, à repenser la question de la lutte des classes, non pas entre le travail et le capital, mais entre aussi se libérer du travail. Parce que maintenant, le travail, justement, du fait que c'est une subvention réelle, c'est-à-dire l'application de la science à l'augmentation de la productivité, donne à penser que justement le travail lui-même domine le travailleur. Et en ce sens-là, je pense que, enfin, je crois que justement, les machines, et comme on voit comment sont organisés les procès de production, comme vous avez dit, la fin de l'usine masse, et, l'usine, enfin, ce qu'on appelle l'usine diffuse, c'est-à-dire, voilà, les industries de process, où c'est beaucoup de machines automatisées, c'est là qu'on peut trouver peut-être aussi un point d'ancrage dans le processus contradictoire, justement, pour baisser le temps de travail. Parce que maintenant, quand on voit que, je sais pas, juste, ça m'a toujours paru fou quand on voit dans une usine où les chaînes sont pratiquement toutes automatisées, d'ailleurs c'est ce qu'on nous montre à longueur de journée, des robots, et pourtant les gens continuent à bosser 8h, 10h par jour. Je pense qu'il y a un point d'ancrage là où on peut justement partir sur la question de l'abaisser du temps de
travail. Oui, je vois ce qu'évoque votre question. Je vais peut-être en prendre une autre. C'est pas pour botter en touche, mais je vais y répondre d'une certaine manière.
Et alors, ce qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit, ça ressemblait beaucoup à un propos que j'avais déjà entendu il y a 2 ans dans un cours d'économie. Donc, c'est un prof d'économie, donc pas du tout la même méthode de travail qu'en sociologie. Voilà, qui avait exprimé un schéma qui se présentait comme ça, donc qui séparait le travailleur taylorien du travailleur cognitif, en disant que ce qui les distinguait, c'était la nature de leur travail. Et donc après, il partait sur une idée qui était celle-là. Donc il y a un présupposé derrière l'idée de temps de travail, c'est que le temps de travail doit s'opposer au temps libre. Et ce qu'il disait, c'est que si pour le travailleur taylorien, on pouvait bien séparer le temps de travail et le temps libre, chez le travailleur cognitif, ce n'était pas aussi évident parce que ça se confondait beaucoup avec sa vie privée. Prenez son exemple lui-même qui était professeur, il lui arrivait pendant son temps libre de penser à son travail, soi-disant. Et par rapport à ça, lui, il avait une solution pour résoudre le problème un petit peu. C'était de plus raisonner en termes de temps, mais en termes de projet, en fait. C'est-à-dire considérer la production de la chose qui peut être produit, un service, un savoir, etc. Et de ne plus chercher, de ne plus être payé ou rémunéré en fonction du temps que l'on donne pour produire cette chose, mais plutôt dans la valeur qu'a cette chose directement.
Très bien. Oh, il y a de quoi faire, là.
J'aimerais quand même qu'on aborde aussi quand même la question de ceux qui n'ont pas de travail.
Oui, je vais faire.
La diminution du temps de travail, c'était quand même au départ pour en donner à ceux qui n'en ont pas. Et comme le disaient les autres intervenants, effectivement, il y a eu des gains de productivité absolument phénoménaux depuis des années. Et c'est sûr que pour produire, il y a besoin de très peu de temps maintenant. Alors, comment se fait-il qu'on a pas du tout à réduire le temps de travail des gens qui en ont pour le donner à ceux qui en ont pas. Enfin, en gros, hein, je schématise.
Alors, quand on fait l'histoire de la réduction du temps de travail, d'abord il y a beaucoup d'âneries qui se disent, ça n'a pas du tout été un processus continu et linéaire, c'était un processus scandé par des luttes, la lutte des classes. Pour voir apparaître une association entre la revendication de diminution du temps de travail et la création d'emplois, il a fallu attendre les années 30. René Mouriot, qui est dans la salle, qui est un super historien du mouvement syndical, me contredira peut-être, mais je crois que c'est ça que j'ai lu sur l'histoire de la réduction du temps de travail, montre ça. C'est-à-dire que quand même, pendant toute une séquence historique, réduire le temps de travail, c'était d'abord pour souffler. Hein, et puis quand même, il y avait dans le jeune mouvement ouvrier l'idée libérer du temps pour pouvoir éduquer finalement les travailleurs et accéder à la citoyenneté, à une vraie citoyenneté. C'est-à-dire pouvoir apprendre à lire, à faire de la politique, etc. Participer à la vie de la cité. Ce qu'on a retrouvé un petit peu au moment des 35 heures. Hein. Il y avait des doux rêveurs qui disaient on va diminuer le temps de travail, comme ça vous allez avoir un engagement associatif très fort et ça va être génial. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose hein, de ce côté-là. Mais pour des tas de raisons dont on pourrait discuter. Donc dans les années 30, effectivement, on a commencé, mais ce n'était pas forcément au premier plan, à dire diminuer le temps de travail, les 40 heures, et pour les chômeurs aussi, mais je pense que ce n'était pas central. Par contre, à partir des années donc 90, hein, 80 même, puisque 39 heures déjà, hein, 80, à partir des années 80-90, on a commencé à associer, en dire finalement, on diminue le temps de travail et il y a bingo sur deux aspects, on a plus de temps libre et on crée des emplois pour les chômeurs. Tout à fait d'accord. Hein, c'était la thématique très discutée, parce que formulée comme ça, elle est très discutable, de partage du travail. Hein. Alors, partage du travail, moi j'ai des réticences que vous comprendrez, parce que je trouve ça court. Si on écoute bien, partage du travail, d'abord, ça voudrait dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un volume de travail qui est échangeable, partageable, comme si un travail valait un autre travail. Or, c'est quand même un peu plus compliqué quand on regarde entreprise par entreprise, atelier par atelier, service par service. Hein, donc, ne jamais faire l'impasse sur la qualité des emplois et la qualité du travail, etc. Et le fait que ce n'est pas si simple que ça de remplacer un travailleur par un autre travailleur, ne serait-ce que parce qu'il faut le former, etc. Donc, et puis surtout, ça fait l'impasse sur la question du partage des richesses. Hein. Si on partage le travail à masse salariale inchangée, on partage la misère. Et personne n'est pour. Et ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a eu tout de suite de très fortes revendications qui ont rappelé au réel un certain nombre de dirigeants qui pouvaient penser qu'on pouvait comme ça diminuer les salaires en diminuant le temps de travail de manière généralisée par un souci de générosité, par, en pariant sur la générosité comme ça abstraite des travailleurs. Non, je pense que et c'est a fortiori plus vrai aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 10 ou 20 ans d'arrière. Pour la plupart des salariés, compte tenu de l'état des salaires, il n'y a pas de diminution du temps de travail sérieuse possible avec diminution des salaires. Hein. Donc la question, c'est celle du partage des richesses. C'est-à-dire poser la question de que deviennent les richesses créées, où, dans quelle poche vont-elles, où vont les dividendes, etc. etc. Hein. Il me semble que si on ne met pas au premier plan de la revendication le partage des richesses, en même temps que la diminution du temps de travail, il me semble qu'on est battu. Il me semble que si on a été battu, notamment dans les années 98-2000 et 2002, au moment des lois Aubry, c'est parce que la question du partage des richesses n'a pas été posée suffisamment fortement, et parce que c'était l'idée, on va vers des accords gagnant-gagnant, tout le monde va être gagnant, y compris les patrons. Ouais, les patrons, ils ont peut-être été gagnants, mais au prix d'une intensification terrible du travail dans certains endroits. En tous les cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une diminution radicale des profits à cette époque-là, quoi. Hein? Bon, donc ça, c'était un petit voilà. Donc partage des richesses. Tout ce qui est dit sur les gains de productivité, le fait que on est dans une situation où on a encore fait des progrès considérables depuis 20 ans en termes de gains de productivité, de progrès de l'informatisation, de l'automatisation d'un certain nombre de processus. Quoique ça rencontre une limite hein, sur laquelle des chercheurs qui sont plutôt du côté de la décroissance ou de l'écologie attirent l'attention. Attention, dans une société de service, si vous voulez continuer à faire des gains de productivité classiques, vous allez vers une société invivable dans laquelle on est déjà. C'est une société dans laquelle vous ne trouvez plus personne au guichet. Hein. Tout est automatisé, il n'y a plus aucune présence humaine dans les gares, presque dans les banques, dans les services publics, il faut tout faire soi-même par Internet. C'est quoi cette société? Est-ce qu'on a envie de vivre dans cette société-là? Hein. Donc, il faut poser la question de la qualité de vie, donc le fait que...
Pour des travaux de caissière, c'est pas très intéressant.
Peut-être, alors on peut discuter, d'ailleurs, avec les principales intéressées. Est-ce que vous êtes pour le passage...
Ils veulent garder le boulot, mais voilà. Alors, de leur
Non, mais je suis d'accord. C'est discutable. Mais je voulais quand même poser le problème du fait que l'épuisement des gains de productivité sur laquelle un certain nombre d'économistes attirent l'attention, c'est lié au fait qu'on est dans une économie des services dans lesquels, si vous continuez à concevoir des gains de productivité sur le modèle industriel, vous allez vers la généralisation des automates et qu'il y a un certain nombre d'activités de services qu'il n'est pas du tout souhaitable, si on en débat collectivement, si on en débat de manière citoyenne, qu'il n'est pas forcément souhaitable de rationaliser de manière taylorienne. Les activités de soins, les activités d'éducation, par exemple, il y a toute une série d'activités pour lesquelles il faut beaucoup plus de monde pour développer la qualité des prestations. Hein. Donc là, il faut embaucher sans forcément faire des gains de productivité. Hein. Et donc ça repose d'ailleurs à la question du partage des richesses, parce que dans l'état actuel du partage des richesses, si on revenait au partage travail-capital que nous avions jusqu'aux années 80, par exemple, hein, puisque le travail a perdu 10 points, en gros, hein, dans la valeur ajoutée, à cette époque-là, en gros, dans les années 80-90, qu'il n'a jamais retrouvé depuis, si on retrouvait ces 10 points, il y aurait du grain à moudre, quand même, hein, en termes de création d'emplois. Avec nos 5 millions de chômeurs, effectivement, c'est un drame terrible, et pour moi, aujourd'hui, comme pour beaucoup de gens, il faut tenir les deux bouts. L'objectif d'une réduction radicale, massive, c'est 32 heures qu'il faut se donner comme objectif aujourd'hui, hein. 32 heures, sous quelle qu'en soit la forme, hein. Et le retour à la retraite à 60 ans pour tous, hein, je pense. Ça, c'est effectivement immédiatement 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois pour les 5 millions de chômeurs. Oui. Et si on embauche à proportion, en gros, de la diminution du temps de travail, il n'y aura pas de détérioration de la qualité du travail et de l'intensité du travail. Donc, effectivement, on est dans une conjoncture historique où, contrairement à celle du début du XXe siècle, l'existence de ce chômage de masse qui parasite et qui paralyse toute une série d'autres conquêtes sociales, c'est un enjeu absolument prioritaire. Donc c'est un objectif central pour moi d'une nouvelle réduction du temps de travail, c'est la diminution du taux de chômage, la diminution du nombre de chômeurs. Ouais. Je suis bien d'accord. Alors il y a il y a trois mains qui s'élèvent. Après, et quatre.
Après ce que vous avez dit, je sens une certaine incohérence. Vous avez parlé des 35 heures en disant que c'est un discours qu'on entend pas mal, que le travail n'était pas un cadeau qu'on pouvait partager, et que les 35 heures. Et là, maintenant, vous me dites, je veux aller vers les 32 heures, et je vous renvoie votre argument premier, c'est-à-dire, si ça n'a pas marché pour les 35 heures, pourquoi ça marcherait sur les 32 heures? Dans l'état actuel des choses, hormis le fait qu'effectivement, si on regagnait les 10 points, est-ce que c'est aussi un débat syndical, ou est-ce que c'est pas plutôt un débat politique dans cette situation-là?
Vous faites une différence radicale entre les deux?
Non, pas en ce qui concerne. Mais on entend souvent cette catégorie, le syndical et la politique, qui ne se marient pas. Je ne suis pas prêt à soutenir cette thèse parce que je pense qu'ils sont intimement liés. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment ce qui n'a pas marché pour les 35 heures pourrait marcher.
Bon, de toute façon, je vais vous répondre que la clé, elle se situe d'abord dans le rapport de force sociale. Hein. Si ça n'a pas marché, c'est parce que le rapport de force sociale n'était pas là, hein, premièrement. Mais effectivement, même si le rapport de force sociale avait été là, mais c'est un raisonnement qui se mord la queue, si je puis dire, je pense que ça n'aurait pas été suffisant parce que, comme j'ai essayé de le montrer, il y a des questions de fond. De l'approche même, hein, du temps de travail et du rapport entre travail et temps, qui sont insuffisamment appropriés aujourd'hui par le mouvement syndical et politique qui serait pour une diminution radicale de la durée du travail. Okay? Donc je pense qu'il faut à la fois reconstruire un rapport de force infiniment plus favorable au monde du travail, et d'autre part que le monde du travail progresse sur ses enjeux de qualité et de contenu du travail pour poser de manière plus efficace les questions de temps. Alors ce que j'essayais de dire, c'est que quand on raisonne à une échelle réduite, hein, dans telle entreprise, dans tel service, dans tel atelier, on ne peut pas partager simplement le travail. Un poste ne vaut pas un autre poste. Et qu'il faut à chaque fois, et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé au moment des 35 heures, et dans le meilleur des cas, il y a sans doute des expériences intéressantes qui se sont faites à ce moment-là, où on a pu, en négociant, à la fois les modalités de diminution du temps de travail et les modalités d'embauche, discuter du travail. Mais ça a été assez exceptionnel. Il y a eu très peu de discussions sur le contenu du travail, sur la charge du travail et sur l'organisation du travail. Du coup, les salariés ont été floués. Hein. Mais je pense qu'à une échelle macroéconomique ou macrosociale, il est tout à fait légitime de continuer à raisonner en termes, à condition, de ne pas se faire avoir en termes de partage des richesses, hein, en termes de place de la masse salariale dans cette affaire. Hein. Si vous diminuez la masse salariale en diminuant le temps de travail, je ne vois pas comment vous allez pouvoir embaucher effectivement et tout en maintenant les salaires. C'est pas possible. Donc en raisonnant à une échelle macroéconomique, il me semble possible de dire qu'une diminution radicale, hein, je ne parle pas d'une diminution homéopathique de la durée du travail, mais une diminution radicale et rapide, ce que disent beaucoup de gens, quand on fait le bilan de ce qui n'a pas marché, les 39 heures par exemple, c'est une diminution assez homéopathique, hein, de la durée du travail, qui a créé très peu d'emplois. Pourquoi ? Parce que ça a été trop insuffisant. Et quand vous diminuez la durée du travail d'une heure, il y a 1000 recettes pour trouver des gains de productivité ici ou là pendant les 39 heures qui vous éviteront d'embaucher des salariés dans une petite entreprise notamment. Hein, vous voyez ? Alors que si on procède à une diminution significative et assez rapide de la durée du travail, en remettant en débat la question du partage des richesses, il me semble qu'on peut, oui, embaucher des centaines de milliers, ou voire des millions de chômeurs.
Tant qu'on n'aura pas retrouvé les 10 points de PIB qu'on avait dans les années 80, ce n'est pas la peine.
Non, c'est pas ça, parce que procéder à une telle réforme, ce serait regagner ces 10 points, vous comprenez ?
D'accord.
C'est pas attendons de regagner 10 points puis faisons la réforme, c'est...
Pour les 35 heures, vous en faites un bilan assez négatif. Et il y a eu l'intervention de la dame tout à l'heure qui vous a dit au niveau du partage du temps du travail. J'ai bien écouté ce que vous disiez sur les cadres, cadres sup, etc. Donc c'est un problème un petit peu complexe. La dame vous répond le temps de travail d'une caissière est équivalent au temps de travail de la caisse 5 à la caisse 7. C'est bon. Équivalent. Ouais. Donc, est-ce que le problème n'est pas justement de vouloir diminuer par exemple le temps de 35 à 32 et d'une façon globale, alors qu'il est absolument nécessaire que ce soit dans chaque branche qu'on étudie les situations les plus favorables?
Bon, je crois que là, on va rentrer dans un débat qui va être un petit peu technique. Parce que là, je vais vous faire peut-être une réponse de Normand. Il faut tenir compte à la fois de l'importance d'un cadre de régulation nationale, voire internationale d'ailleurs, hein, dans le contexte de l'Europe, etc., hein, du temps de travail et des salaires, parce que tout se tient, et de tenir compte des spécificités, surtout dans une période de transition. C'était d'ailleurs un petit peu la démarche des 35 heures, consistant à dire « Ah, les petites entreprises, elles verront plus tard. » Je crois qu'il y a un certain nombre de petites entreprises qui n'ont jamais rien vu. « Ah, la fonction publique, elle verra plus tard. » Il y a un certain nombre de fonctionnaires qui n'ont jamais vu la couleur, hein, des 35 heures. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être à réfléchir sur une articulation entre, effectivement, peut-être des secteurs qui sont un peu en avance, mais que tout le monde aille un peu dans le même sens. Hein. Sinon, on va vers un éclatement des situations dans le monde du travail, et c'est la pire des choses, quoi.
Est-ce que c'est pas justement le problème majeur, cet éclatement ?
Oui, je suis bien d'accord. Donc moi,
quelque chose de global, éviter l'éclatement, mais sans des études particulières, c'est difficilement faisable. Bon, si vous voulez savoir, vous allez répondre.
J'ai moins confiance dans les études que dans la dynamique des rapports de force. Donc il y avait, je crois, deux ou trois questions derrière encore.
Bon, je pense que pour les il y a des métiers où peut-être on va laisser le cerveau, donc ça c'est difficile de faire en sorte que le cerveau ne travaille pas.
Ouais. C'est vrai, j'ai pas répondu aux questions.
Mais au-delà de cette difficulté, au-delà de cette difficulté, ce qu'on voit c'est que les employeurs avec les moyens modernes, ils donnent un téléphone portable, un ordinateur portable aux salariés, et donc ils abusent et ils appellent les gens même la nuit, etc. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas à la fois donc, que les syndicats se battent et peut-être une nouvelle réglementation qui fasse qu'on protège, c'est-à-dire qu'il soit interdit de les déranger quand ils ne sont pas au boulot, plutôt que de compter sans travail, compter le temps de repos, ce que je
voulais
dire.
Alors, je m'aperçois que j'ai zappé pas mal de questions qui ont été posées. Hein. Là-dessus, il y a une réponse peut-être simple, c'est que le droit à la déconnexion, c'est une revendication syndicale. Hein. Donc, en tous les cas, pour des métiers qui ne sont pas des métiers soumis à astreinte, je vous fais observer qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont soumis à astreinte. C'est-à-dire que vous avez ces situations intéressante pour un chercheur ou un sociologue, qui sont des situations de ni-ni. Vous n'êtes ni au travail, ni disponible pour vaquer à vos propres occupations, comme le dit le droit du travail. Hein. La définition du temps de travail qui est un peu ringard dans le temps... Enfin bon, ça a du bon. Dans le droit du travail, c'est... Vous êtes au travail quand vous ne pouvez pas vaquer librement à vos occupations. Hein. Donc le temps d'astreinte, c'est quoi? Ben, vous ne pouvez pas vaquer librement à vos occupations. C'est une forme de temps de travail, hein, le droit. La situation d'astreinte à domicile ou d'astreinte ailleurs, ou d'astreinte sur le lieu de travail, c'est encore pire, hein, parce qu'il y a les deux astreintes. Donc là-dessus, effectivement, je ne veux absolument pas apparaître comme un donneur de leçons au mouvement syndical. Hein. Il y a les secteurs du mouvement syndical qui sont au travail depuis longtemps, hein, et qui avancent des revendications tout à fait intéressantes, comme le droit à la déconnexion. Alors ça va m'amener à essayer de répondre à des questions qui ont été posées, avec des points de vue d'ailleurs très contrastés, enfin des témoignages assez contrastés, entre le monsieur qui nous parle de la taylorisation généralisée des activités de travail aujourd'hui, et puis d'autres plus jeunes peut-être qui nous parlent du travail intellectuel, où on est tout le temps en train de travailler, et que finalement ça peut être une bonne chose. Si on s'éclate dans son travail, pourquoi le borner à un espace-temps limité ou un temps limité? Et donc vous avez introduit l'idée de la régulation du temps par le projet, le temps du projet. Alors moi ça me fait réfléchir, j'ai pas de solution hein, par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'activités dont... La logique temporelle, pour parler comme Philippe Zarifian, c'est plus une logique de temps du projet que temps de l'horloge. Hein. Philippe Zarifian, c'est un collègue sociologue et philosophe qui a beaucoup aussi réfléchi sur le temps et qui a pas mal alimenté mes propres réflexions. Et qui a produit des textes intéressants qui sont en bibliographie, là, hein, notamment sur l'idée que... dans les activités que vous évoquez, des activités à forte composante cognitive, hein, de connaissances cognitives, à forte composante intellectuelle, eh bien, on peut imaginer qu'il y a des moments, il y a des lieux très différents hein, pour l'efficacité du travail, qui reste un travail collectif. Hein. Alors même le travail enseignant est un travail collectif pour une part, hein, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de travail purement individuel. Hein. Il faudrait déjà peut-être se mettre d'accord là-dessus. Mais il disait finalement, il y a quand même des moments, je ne sais plus comment ils appelaient, mais des moments où on doit se réunir pour élaborer ensemble, y compris dans les activités à haute composante cognitive, dans les recherches sur projet, dans les activités de recherche-développement. Il faut des moments où le collectif, l'équipe se retrouve en tas et discute en interaction directe. Internet ne règle pas tout. Hein. Et puis il y a des moments effectivement on peut être n'importe où et on peut cogiter personnellement. Donc comment penser ces nouvelles articulations entre des moments d'interconnexion concrète et des moments de travail plus solitaire tout en essayant de faire en sorte, parce qu'il y a quand même un sacré enjeu dans tout ça dont on n'a pas parlé, c'est la vie en société, c'est la vie sociale, la vie familiale, la vie associative, le lien social, hein. Bon, comment borner quand même ces activités professionnelles pour qu'il y ait des moments où les personnes se retrouvent libérées quand même quelque part pendant un temps. On peut rêver, hein, d'un, comme le faisait Marx, d'une société dans laquelle finalement on ne sait plus trop quand on travaille et quand on est dans le loisir, puisque toutes les activités sont libres de toute façon. On s'éclate tout le temps, partout. Je crois que ce n'est pas demain la veille, hein, notamment parce que comme le rappellent un certain nombre de chercheurs féministes, il y a toutes les activités du care, hein, du soin, personnes âgées, enfants, ménages, etc., qui ne sont pas prêts de disparaître de l'horizon du quotidien. Donc il faut bien s'occuper de ces activités, il faut bien qu'il y ait des personnes, et peut-être le plus grand nombre de personnes, qui, de manière plus égale, qui s'occupent de ces activités, de prendre soin des autres. Hein? Ça, c'est un sacré enjeu de civilisation aussi. Hein? On peut très bien imaginer une société dans laquelle vous avez une minorité qui s'éclate tout le temps, qui travaille. Peut-être le modèle nord-américain est pas loin de ça. Hein. Il y a des professionnels de haut niveau qui travaillent 60, 70 heures, etc., jusqu'à 70 ou 75 ans, qui, bon, peut-être qu'ils s'éclatent. Mais c'est des hommes blancs et riches. Hein. Les femmes, les noirs, ils sont de l'autre côté. Et des activités laborieuses, contraintes, au service des hein. C'est ce que désignait Gorce, hein, comme société de service, société de serviteur. Attention, il y a des réflexions très stimulantes d'André Gorce là-dessus. Voilà, donc, un cadre de régulation quand même des activités professionnelles, dont le temps restera une composante indispensable, hein, y compris le temps de l'horloge. Hein. Pendant une période historique assez longue, je ne pense pas qu'on puisse abandonner sans méfait grave le temps de l'horloge pour borner les activités professionnelles. Mais dans les articulations à imaginer, et puis là, moi, je suis, en discutant avec vous, je suis en recherche comme vous, imaginer des articulations nouvelles entre le temps de l'horloge et le temps du projet, par exemple. Imaginer des articulations nouvelles entre les espaces de travail collectif, des espaces qui soient des espaces partagés, le domicile, pourquoi pas. Mais tout ça, ça pose, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, la question de la délibération collective sur qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert et comment on régule collectivement nos activités. Sinon, c'est la déréglementation et l'individualisme généralisé quoi, qui guette. Alors, sur la rationalisation généralisée, je crois que j'ai répondu en disant que c'était quand même un peu plus compliqué. C'est très bien, vous allez avoir la prochaine fois Philippe Davosi, hein, qui a une formule, moi, que je retiens. Donc, c'est un médecin du travail, hein, qui travaille beaucoup avec les syndicats sur les enjeux de santé mentale au travail. Certains d'entre vous le connaissent ici. Il a une formule extraordinaire pour résumer les évolutions du travail, lui, et la montée des problèmes de santé mentale au travail. Il dit les travailleurs, les travailleuses, les gens qui travaillent aujourd'hui ont des choses de plus en plus compliquées à réaliser, de plus en plus seul. Voilà. Voilà comment il résume la situation. Et il prend l'exemple, effectivement, des activités de service, hein, dans lesquelles la salariée est confrontée à un interlocuteur qui est toujours singulier. C'est jamais le même. Hein. Même si on essaye de vendre des services Internet aux grands-mères, ça va pas. Hein. Parce que, voilà, il faut tenir compte de la personne qu'on a en face, hein, si on veut faire un travail qui ait du sens. On ne peut pas faire durablement un travail qui n'a pas de sens. On devient fou. C'est bien ce qui se produit dans certains cas. Hein. Donc, donc la préconisation centrale, c'est reconstruire des collectifs pour délibérer collectivement de la manière de travailler. Hein. C'est aussi un peu la pensée d'Yves Clos que certains d'entre vous ont peut-être écouté aussi. C'est reconstruire des collectifs où, y compris les divergences entre salariés sur la manière de travailler, deviennent féconds. Le conflit, c'est pas une mauvaise chose. Le conflit, c'est terrible quand il n'est pas élaboré, discuté, quand il est intériorisé. Il y a les ergonomes aussi qui disent que les problèmes de santé mentale au travail, c'est l'intériorisation psychique de conflits sociaux qui n'ont pas été débattus. Voilà. Alors là, il y avait la dame avant, oui, j'avais...
Parce que qui dit réduction de temps de travail dit réduction du personnel. Réduction du personnel entraîne des cadences très importantes. Du coup, on n'est plus sur les 35 heures. Les agents font des heures supplémentaires. Ces heures, elles sont comptabilisées quand on peut. Ça devient la matière. Du coup, dans l'entraînement, on culpabilise les agents. Comme vous êtes malade, et à cause de vous, votre collègue a dû rejoindre. Donc,
J'ai pas de... Votre témoignage, il est vraiment bien parce qu'il montre en particulier les différences, voire les divergences de génération face à cette question du temps et qui mettent en difficulté les acteurs collectifs pour défendre tout le monde, quoi. Je rappelle quand même que il faut pas non plus renoncer à la fonction pédagogique du mouvement syndical. Les 12 heures, c'est pas bon, il faut le dire, je crois. Il faut pas avoir peur de le dire. Bon, les heures supplémentaires qui étaient massives dans les années 50, où on était très très loin des 40 heures, en pratique, dans l'industrie, dans le bâtiment, etc., on était à près de 50 heures. C'était aussi un autre modèle de monde du travail très masculin, dans lequel il y avait encore beaucoup de femmes qui, après les enfants, au moment des enfants, en tous les cas, s'arrêtaient longuement de travailler, étaient au foyer. J'ai pas trop évoqué ça, mais j'en profite pour le dire, quoi. Une partie importante des enjeux du temps de travail aujourd'hui sont liés à la féminisation complète, à la mixité complète aujourd'hui du monde du travail. On était à cette époque dans un monde du travail encore très masculin, il y avait 70% d'hommes au travail dans les années 60. Le monde du travail était composé à 70% d'hommes, plus exactement. Et les syndicats devaient se battre contre les heures supplémentaires sur lesquels que revendiquaient les salariés moins conscients. Et les syndicats avaient ce discours. Attention à votre santé, attention, etc. etc. De même que, je pense, dans un grand nombre de cas, les syndicats ont dû se battre pour déplacer les demandes individuelles qui se portaient plutôt sur, comme je disais tout à l'heure, négocier une compensation monétaire salariale d'un risque ou éliminer le risque à la source. Quitte à ce que ce soit plus long, plus compliqué, etc. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui peut-être aussi revaloriser cette fonction critique et pédagogique par rapport à un certain nombre de dérives. Et en tous les cas, bon, alors c'est marrant parce que vous avez dit la réduction du temps de travail à l'hôpital, c'est la diminution du personnel. Parce qu'il n'y a pas d'embauche, justement. La diminution du temps de travail ne signifie pas automatiquement la diminution du personnel. Le problème, c'est qu'il faut des embauches. Et on a peut-être tendance à intérioriser l'idée qu'on ne peut plus embaucher. Alors que là, on a quand même, avec cette situation qu'on connaît bien, de dégradation terrible des conditions de travail dans un certain nombre d'endroits, la possibilité, en tous les cas théorique, de joindre complètement, alléger le travail, travailler mieux, travailler autrement, et puis travailler tous. C'était comme ça qu'on disait avant. Travailler mieux, travailler tous. Avec le nombre de chômeurs qui attendent... qui n'attendent que ça, parce que l'état de santé mentale et de santé physique des chômeurs est catastrophique. Aujourd'hui, avoir un travail, c'est la santé quand même. Quand on regarde les statistiques, il n'y a pas photo. L'état de santé de la population au travail, qui est aussi sélectionné par la santé au travail d'ailleurs, est bien meilleur que celle des précaires et des chômeurs. Et surtout des chômeurs de longue durée, qui est catastrophique. Il y avait encore deux ou trois demandes, et comme le temps passe... Donc c'était là-bas. Vous êtes vachement discipliné parce qu'en fait vous relevez le bras dans l'ordre. Là-bas et puis après à vous. Ouais.
Moi j'avais une question. Pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos du rapport de force, je pense qu'effectivement c'est la question qui fait que, comment dire, j'ai l'impression que dans le fond on est à peu près tous d'accord ici pour dire que réduire le temps de travail, à condition évidemment que l'organisation du travail en bas d'espace, c'est quelque chose qui est bon. Sauf que j'ai l'impression que, peut-être je me trompe, mais qu'en ce moment, si on faisait un sondage dans la société française, ce sentiment-là n'est pas forcément partagé. Donc en ce sens, si on veut faire progresser la question, peut-être il s'agit d'évaluer le rapport de force et voir peut-être comment est-ce qu'on peut le modifier. Et alors, du coup, peut-être ce serait essayer de voir quels sont les arguments des gens quels sont les arguments que les gens ont à opposer justement à la réduction du temps de travail. Alors, je sais pas, moi j'en vois deux catégories, probablement vous pourrez bien sûr compléter. La première chose, c'est peut-être des arguments un peu économiques, qui sont de dire si on veut réduire le temps de travail sans baisser les salaires, du coup potentiellement on augmente la masse salariale, du coup si on augmente dans un contexte mondialisé, européanisé, forcément, du coup on perd en compétitivité, j'ai l'impression que c'est un peu ça le discours qui est mené. Et qui, à mon sens, porte dans le sens où j'ai l'impression que beaucoup de gens ont complètement intériorisé cette contrainte de la mondialisation qui fait en sorte, et qui n'est pas forcément complètement fausse d'ailleurs, pour la penser, et du coup qui fait en sorte que la discussion sur le temps de travail, elle est intéressante à mener là entre nous, mais en quelque sorte, dans le débat public, elle n'avance pas du tout, justement à cause de ça. Et puis après, il y a une deuxième, peut-être un deuxième argument que les gens opposent, plus ou moins consciemment au temps de travail. À nouveau, peut-être que je me trompe là, je ne sais rien, mais c'est quelque chose qui. Un truc que j'avais vu dans un bouquin de Orwell qui s'appelle Dans la dèche à Paris, je crois, c'est ça le titre. Mm-hmm. Et il y a un chapitre dans lequel, en fait, il retourne sur sa profession, où il est à galérer complètement dans Paris pour essayer de trouver des boulots. Et en fait, il travaille comme. En gros, il fait la vaisselle dans les hôtels à des heures complètement possibles, 14-15 heures par jour. Et du coup, il se pose la question à un moment donné, il dit finalement à quoi ça sert ces boulots-là. Ils appellent les bullshit jobs, je crois. Et du coup, il dit, bon, en fait, il y a une première explication qui est de dire, bon, mais ces boulots-là, ça sert parce que pour l'économie, on en a besoin, etc. Il faut bien que quelqu'un fasse ça avec ça. Du coup, ça rejoint peut-être un peu la question de la nécessité économique d'avoir un temps de travail correctement. Et puis ensuite, il poursuit un peu plus sa réflexion et il dit, non, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on en a vraiment besoin du point de vue économique? Et il dit peut-être que. Peut-être qu'en fait la raison est beaucoup plus inconsciente, mais elle est quelque chose qui tendrait à dire que finalement les riches imposent ces conditions de travail-là parce qu'ils ont peur que les pauvres se révoltent. Et est-ce que derrière un des arguments qui est opposé justement à la réduction du temps de travail, c'est pas un peu ça? C'est pas un peu finalement si on donne du temps libre aux pauvres, est-ce qu'on ne va pas leur laisser le temps de réfléchir et puis potentiellement faire autre chose?
Très bien pour
nous. Les deux arguments, peut-être que
je ne sais pas si on doit terminer à 21h. Je vais essayer d'être. Il y a encore deux ou trois interventions, donc je vais. Merci pour votre intervention. Bon, je ne sais pas trop où en est l'opinion publique du point de vue de la conviction, de l'adhésion aux idées néolibérales, comme quoi. Tous les problèmes viennent d'un manque de compétitivité, c'est-à-dire du fait que les salaires sont trop hauts, le temps de travail est trop court, en gros c'est ça, hein. Et donc pour redresser la situation du pays, il faudrait travailler plus et gagner moins, en gros, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit si râpé que ça, hein. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ce discours, hein, et que ça a sans doute qu'il a sans doute des effets dans l'opinion. Sur la deuxième partie de votre intervention, d'abord, je pense pas que les riches se réunissent en réunion pour décider à la manière de certains comploteurs de ce qui est bon ou de ce qui est pas bon pour les pauvres. Je pense que ça marche pas comme ça. Hein. Je pense qu'il y a des logiques structurelles qui font que on en est là, quoi. Il n'est pas du tout malheureusement acquis que, et d'ailleurs on a les 35 heures quand même qui le démontrent, hein, qu'une réduction du temps de travail amène les gens à, comme je disais tout à l'heure, un engagement dans la cité, à une réflexion critique, etc., et voire à une révolte. Hein. Je pense qu'il y a toute une série d'autres phénomènes qu'il faut intégrer pour comprendre. C'est un petit peu plus compliqué. Il y a même des gens un peu critiques hein, par rapport aux effets des 35 heures qui disaient, bon, finalement, il y a un peu plus de monde dans les supermarchés. Voilà, tout ce que ça change. Voilà, dans. Mais il y a pas plus de monde dans les associations. Par contre, il y a un peu plus de monde dans les espaces commerciaux, parce qu'ils ont un peu plus de temps pour faire des courses ou se promener sans acheter dans les espaces commerciaux. Voilà, donc on pourrait caricaturer un petit peu les effets inattendus ou critiquables d'une réduction du temps de travail. En tous les cas, il me semble que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toute une série d'enjeux qu'il faut articuler pour imaginer une issue un peu en termes de gain de civilisation à cette affaire. Hein. C'est sûr que ne pas remettre en question en même temps, comme je disais, le mode de développement de la société, hein, le mode de croissance, le type de croissance, le à quoi sert ce que nous produisons, à quoi sert notre travail. Ça pourrait se traduire par une diminution du temps de travail avec le développement du consumérisme, quoi, c'est-à-dire d'un mode de vie que par ailleurs on peut beaucoup critiquer pour sa pauvreté en termes de lien social, en termes de développement réel des capacités des individus. Voilà. Je crois qu'il y avait encore deux ou trois demandes. Monsieur, et puis ensuite, il y avait encore... C'est tout ?
Sur la question du travail le dimanche, moi je pense que l'enjeu, c'est pas du tout de sacraliser le dimanche, c'est au contraire de lutter contre la tendance à la flexibilité généralisée. Et par rapport à ça, jusqu'à présent, je dirais qu'il s'agit plutôt de sacraliser le week-end. Puisque c'est quand même, jusqu'à présent, le temps du week-end, du samedi et du dimanche, qui a été le temps non seulement des loisirs collectifs, mais le temps de l'action, le temps de la vie associative, le temps des manifs, etc., le temps des réunions. Est-ce que l'enjeu, ça ne serait pas de revendiquer dans tous les secteurs, y compris notamment, je pense, le secteur hospitalier, où il y a l'impératif d'un fonctionnement 24 heures sur 24, revendiquer dans tous les secteurs, pour tous les salariés, un nombre de week-ends garantis chaque mois. Autrement dit, il s'agit, je pense, de sacraliser le temps du week-end comme temps collectif pour être ensemble, et c'est une façon de lutter contre la flexibilité généralisée, à mon avis.
Oui, je serais assez d'accord avec ça. Je crois qu'il y a à peu près 30% aujourd'hui des gens qui travaillent le samedi régulièrement. Hein. 30%. Mm-hmm. Donc le dimanche, c'est un peu moins, ça va être de l'ordre de 10 à 15% de mémoire. Je crois qu'il y a des statistiques là-dedans, mais je ne les ai pas forcément en mémoire. Donc effectivement... à focaliser le débat public ou médiatique sur le dimanche, on oublie cet enjeu énorme qui est celui du samedi. Et je dirais même de la possibilité aussi de deux journées consécutives de repos. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de journées consécutives de repos. Hein, voilà. Donc, derrière, c'est la question, effectivement. Alors, on nous amène... Alors, j'allais... aussi parce que je ne l'ai pas dit, pour moi le symptôme majeur de la défaite culturelle et politique de la gauche sur le temps de travail, c'est quand même la réussite du mot d'ordre de Sarkozy en 2007, travailler plus pour gagner plus. Hein? Donc ça veut dire que on sait que ça a eu un certain, faut pas non plus l'exagérer, mais on sait que ce mot d'ordre a eu un certain écho dans une fraction peu qualifiée, peu rémunérée du monde du travail, qui avait le sentiment d'être floué par le bilan qu'il faisait des 35 heures. Hein? Et donc face à ce mot d'ordre d'une pauvreté dérisoire, travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire réduire le travail finalement à une enveloppe monétaire, hein, il n'y a plus d'autre enjeu dans le travail que l'enjeu enveloppe monétaire. C'est la vision libérale du travail. Hein? Le travail, c'est un moyen de gagner du fric, c'est tout. Le contenu du travail, ça n'intéresse pas du tout les libéraux. Hein. C'est pour ça qu'il faut être complètement sur la question du contenu et du sens. Parce que là, les libéraux, ils sont pas sur la question du contenu et du sens du travail. Et donc, à mon avis, si on raccroche, si on réarticule les enjeux de temps aux enjeux de contenu et de sens, on peut redéployer une vraie critique du travail et une vraie mobilisation autour des enjeux du travail et de santé au travail et de type de développement et de type de civilisation. Parce que je pense que sous les apparences d'un consentement aux idées libérales hein, du compétitivité-travail, la compétitivité par le coût du travail, il y a des interrogations radicales sur le monde vers lequel on va quand même et sur le monde qu'on va laisser à nos enfants hein. Et il me semble que on peut aller sur le terrain de ce terrain de la civilisation en passant par les questions du travail et non pas en contournant les questions du travail comme on pourrait avoir tendance à le penser hein, c'est-à-dire bon, on dit alors, finalement le travail, il n'y a pas grand chose à en attendre, il n'y a pas grand chose à changer, mobilisons-nous sur les grandes causes du réchauffement de la planète, de l'environnement, d'autres causes qui, si on ne les articule pas, à mon avis, aux enjeux du travail, seront beaucoup moins bien tenues, seront beaucoup moins bien défendues. Voilà. Je crois qu'il y en a encore une. Voilà.
Juste, pour compléter, vous disiez au départ qu'il ne faut pas déconnecter la notion de salaire de la notion de temps de travail, et effectivement, si on s'attache à l'intérêt qu'on porte au travail, on aura une tendance à vouloir valoriser le travail, et c'est un moyen aussi de raccrocher avec la notion de salaire.
Oui, ça c'est aussi une idée très importante, c'est que il y a eu quelque chose d'un peu pervers hein, dans cette expérience des 35 heures, et dans son comportement des 12 heures, par exemple, c'est de dire finalement, ce travail est tellement éprouvant ou travail est pas valorisant que plus je m'en débarrasse vite, mieux c'est. C'est un calcul à courte vue parce que, comme l'explique Yves Clos, les ergonomes, etc., le travail a le bras long, c'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à réaliser dans le travail, ce qui est porteur de malheur, de frustration dans le travail, contamine le hors-travail. Et donc, on a l'impression de se libérer du travail et d'avoir du temps libre, mais en fait, on est envahi par le fait qu'on n'est pas heureux dans le travail. Hein. Donc, c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est-à-dire vraiment promouvoir un travail plus créatif, plus dans des meilleures conditions, hein, plus épanouissant, c'est à la fois rendre possible la lutte pour le salaire, hein, que ce travail mérite, et un vrai temps libéré. Qui soit d'ailleurs éventuellement un temps rempli par des activités qui sont liées au travail, mais qui ne sont pas liées de manière compensatoire, mais qui sont liées de manière je ne sais pas si on peut dire ça, développementale hein, c'est-à-dire effectivement on peut dans le travail, et je crois que c'est un privilège qu'on connaît dans les activités hautement qualifiées hein, on peut être stimulé dans le travail, on peut être sollicité par le souci, le désir de développer des activités en lien avec le travail, mais qui ne soient pas le travail exactement. Hein? Voilà. Et je pense qu'il y a de toute façon cette pulsion profonde de réunifier les différents temps de notre vie, hein, pour que tout ça soit plus cohérent, prenne plus de sens. C'est-à-dire qu'en fait, on sortir de ce découpage, hein, comme il a été dit, ce découpage qui est issu de l'industrialisation et du taylorisme, le découpage entre eux, et qui a été renforcé par ce que je disais tout à l'heure, le compromis fordiste, on renonce, on perd sa vie à la gagner, hein. C'était ça le mot d'ordre de 68, c'est-à-dire, il y a un espace de notre vie, un espace dans notre vie sur lequel on met une croix, on est en deuil, et on va se réaliser ailleurs. Ben non, ça n'a pas marché comme ça, ça ne peut pas marcher comme ça. Hein. Et je crois que sous leur visage extrêmement négatif, très souvent, les transformations des rapports entre travail et temps, remettre à l'ordre du jour ces vieilles questions hein, de comment sortir de ce cloisonnement, de cette séparation mortifère quelque part, entre un temps qui serait consacré à la non-vie et un temps qui serait consacré à la vie. Voilà, c'est peut-être pas une mauvaise conclusion.